France Inter. Le 6-9 de l'été. Amélie Perrier.
Le dimanche, on jardine sur Inter avec notre grand maître en la matière, Alain Baraton. Bonjour Alain.
J'aime bien qu'on me parle, ainsi.
C'est pas mal, et votre main verte.
C'est beaucoup trop. Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez du safran, puisque c'est en ce moment qu'il faut le planter.
Eh oui, oui, oui. Enfin, si l'on veut effectivement le récolter en automne, donc il ne faut pas perdre de temps. Alors, pour être précis, parce que le safran est un sujet complexe, j'ai donc ouvert mon dictionnaire Larousse. Et voilà ce qui est dit. Le safran est un crocus cultivé pour ses fleurs, un colorant jaune puissant contenu dans les stigmates de cette plante, et enfin, une poudre orangée préparée à partir des stigmates desséchés de Crocus sativus, servant de condiment.
Alors vous avez parlé de stigmates, de quoi
oui.
Il s'agit
Alain ? En botanique, c'est la partie terminale du pistil sur laquelle les grains de pollen sont retenus et appelés à germer.
Alors il doit falloir beaucoup de stigmates pour faire du safran.
Oui, alors c'est un travail vraiment titanesque. Pour obtenir 1 kg de safran, il faut cueillir environ 150 à 200 000 fleurs, puis extraire à la main les stigmates. Vous comprenez certainement pourquoi. Il faut compter près de 30 000 euros.
30 000
Eh oui, oui. C'est plus cher que le caviar et les truffes.
Ah, largement.
Voilà. Mais pour 1 kg de safran, produit en France. Hein. Alors, il est donc exact d'affirmer que le safran est l'épice la plus chère du monde. Et là encore, parce que j'ai envie ce matin d'être très précis, les épices telles que nous l'entendons aujourd'hui sont produites par les plantes et ce sont généralement des fruits, graines, écorces, fleurs ou feuilles qui sont appréciées pour leurs propriétés aromatiques.
Mais de toute façon, les épices ont toujours été des produits coûteux.
Oui, car très souvent d'origine lointaine. Ce qui est rare est cher, mais ce qui est cher peut s'offrir. Et pendant des siècles, il fut de bon ton de donner à ses invités de prestige des épices, des espèces. On en offrait ainsi aux princes et aux vainqueurs quand on perdait une guerre. On en donnait aussi aux juges quand ils rendaient un verdict qui vous était bien sûr favorable. Mais au XIVe siècle, les traditions se perdent. Les magistrats ne veulent plus être remerciés avec du safran, du poivre ou des clous de girofle. Ils veulent de l'argent du vrai et ils le disent sans détour. Ils exigent des espèces sonnantes et trébuchantes. Si aujourd'hui cette expression sonnante et trébuchante n'est plus guère employée, nous continuons tous à payer par chèque, par carte bancaire ou en espèces. Alors petite précision utile, il existe un musée du safran et il est ouvert ce week-end. Il est situé sur la commune de Boine dans le Loiret et il vous en coûtera pour le visiter 5 euros à régler en espèces et non en épices.
Ah oui. Et bien vu, bien vu, une bonne idée.
Vous n'avez que du poivre pour payer l'entrée.
Non, ça va pas marcher.
Je ne suis pas sûr.
Merci Alain. On vous retrouve dans quelques instants pour répondre aux questions de nos auditeurs. À la question d'abord de Martin, le varech est-il un bon engrais pour mon potager ?
Alors autrefois, c'était même l'un des rares engrais utilisés sur les côtes avec le goémon. Le problème, c'est que qui dit varech dit mer, forcément.
Oui, évidemment.
Qui dit mer dit sel. Donc attention, le sel est un puissant désherbant. Donc avant de mettre du varech sur le potager, veillez à le laisser dans un endroit du jardin où les eaux de pluie pourront lessiver l'engrais et le débarrasser du sel. Attention également, il y a de plus en plus d'arrêtés municipaux qui interdisent le prélèvement du varech parce que voyez-vous, ces petits tas d'herbes qui sèchent le long des plages abritent des écosystèmes importants qu'il faut aujourd'hui sauvegarder. Donc oui, c'est un engrais quand il est débarrassé du sel. Oui, on peut le cueillir, le ramasser, sauf avis contraire.
Mais ça s'achète le varech sinon ? Non.
Alors, non, parce qu'il a servi longtemps à la fabrication du verre. L'industrie l'utilise beaucoup. Mais on doit pouvoir en trouver dans certaines régions, mais ça reste un peu anecdotique.
D'accord. Jocelyne, elle vous demande, Alain, combien de temps un géranium en pot peut-il vivre sans arrosage ?
Alors ça,
rapport
c'est
au départ en vacances,
oui.
Peut-être. Hein ?
Alors, il est vrai que j'ai souvent raconté cette anecdote qui est d'ailleurs vraie. Vous avez chez vous des géraniums, vous les avez en pot, ils sont superbes. Et vous arrêtez de les arroser, la plante a peur. Et avant de mourir, elle a envie d'assurer une descendance. Et que fait-elle pour assurer une descendance ? Elle fait des graines. Et pour avoir des graines, elle fait des fleurs. Donc, le fait d'arrêter d'arroser le géranium favorise la floraison. Mais un certain temps seulement.
Ah oui.
Évidemment, il a vraiment soif. Et il tire la langue, en admettant bien sûr qu'un géranium puisse le faire. Alors, combien de temps ? Tout dépend du temps, bien entendu, qu'il va rester les racines aussi. Sec, tout dépend du volume des racines. Donc on peut estimer qu'un géranium peut être capable de vivre dans un grand conteneur pendant 3 semaines sans eau, sans aucune difficulté. Au-delà, c'est pratiquement impossible. Dans des pots plus petits, c'est quand même un petit peu périlleux. Donc que faire ? Quand vous partez en vacances, vous arrosez bien sûr copieusement. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous les mettez dans le jardin, parce que l'humidité de la terre, vous les mettez sur la pelouse, sera toujours mieux. Vous les mettez à l'ombre, bien évidemment. Sinon, vous espérez que 3 semaines ne suffira pas à les tuer.
Faut pas partir trop longtemps en vacances.
Pas trop longtemps quand même.
La question de Jacques. Il est impossible de laisser quoi que ce soit sous mon tilleul, sinon il se couvre d'une poudre noire et collante. Pourquoi ?
C'est le cauchemar, la fumagine. Effectivement, fumagine. Même les voitures, vous laissez une voiture sous un tilleul, la fumagine tombe dessus, c'est très gluant, c'est très dur à nettoyer. C'est un véritable cauchemar, je vous parle pas du mobilier de jardin. Alors qu'est-ce que la fumagine ? C'est un champignon qui se développe sur le miellat, produit par les insectes qui piquent les feuilles de tilleul. Un petit insecte vient pour se nourrir de la sève. La réaction aide la production de fumagine, une sorte de miel. Et sur le miel, un champignon se développe, la fumagine, elle, tombe. Donc que faire ? Pour ne pas qu'il y ait de fumagine, il ne faudrait pas qu'il y ait d'insectes. Donc on se gare ailleurs et on évite d'entreposer quoi que ce soit sous les tilleuls. Je ne connais pas de traitement efficace pour éliminer le problème. Je suis navré.
Désolé. Désolé Jacques. Pauline, elle se demande combien de fois par mois faut-il tondre sa pelouse pour qu'elle ressemble à celle des stades de la Coupe du Monde.
Oui. Hein. Bon,
on a envie de prolonger un petit peu ce mondial.
Oui, j'en ai parlé très rapidement la semaine dernière lorsque j'ai rappelé que le gazon était français.
On est champion du monde.
Eh bien
hein,
oui, souvenez-vous.
De pelouse aussi.
J'ai également rappelé que les grands jardiniers qui s'occupaient des grands stades gagnaient de véritables fortunes.
20 000 euros, je crois.
Ah, pour l'Anglais qui est en charge du Parc des Princes en France, oui, c'est 20 000 euros, mais encore beaucoup plus cher. Il y a même le mercato des jardiniers.
Le mercato des jardiniers.
Le mercato, oui.
Ah ouais.
Eh ben oui. Je n'ai jamais été sollicité.
C'est vrai, c'est décevant.
Non, oui. je le déplore beaucoup. Eh bien, on va tondre au minimum 3 fois par semaine une pelouse de stade, parfois même 2 fois par jour, lorsqu'on est vraiment au top du top pour une compétition.
Et pourquoi on la tond autant? Parce que ça repousse encore plus dru, encore plus vert.
Parce qu'il faut qu'elle soit absolument nickel, qu'il n'y ait absolument aucune imperfection. Et vous-même, qui est, je le sais, une passionnée de football, quand vous regardez le match, vous remarquez à quel point c'est subtilement tondu. On voit des rayés. Faut que ce soit absolument nickel. C'est un spectacle. Il faut que tout soit beau. La pelouse, elle, est la première chose que l'on voit. Le joueur, les caméras de télévision regardent en premier la pelouse et c'est seulement ensuite que l'on voit les joueurs apparaître et seulement ensuite que l'on peut les voir jouer.
Marie, elle a lu dans une revue qu'il suffisait d'éliminer les champignons qui poussent sur un pommier pour ralentir son déclin. Qu'en pensez-vous, Alain ?
Je pense qu'il y a encore des magazines, des revues qui devraient parfois demander l'avis des professionnels. Je trouve ça consternant. Je résume. Le champignon que vous avez apparent sur le tronc d'un arbre est, pour faire très simple, la fructification d'un réseau de mycélium qui, lui, est dans le bois. Ce qui veut dire en clair que ce n'est pas parce que vous supprimez la fleur de ce réseau que vous supprimez le réseau. Et qu'est-ce qui est la cause du problème ? C'est le réseau. Donc non, supprimer le champignon ne changera rien à l'affaire. Pire, il va vous enlever visuellement le signe du danger. Car un arbre champignonné devient dangereux. Tout arbre qui a des champignons sur le tronc doit malheureusement être abattu. Vous retirez le champignon, le danger n'apparaît plus. C'est là le vrai problème.
Mais il existe encore.
Voilà, on ne retire pas les champignons.
On ne retire pas les champignons.
Là, malheureusement.
Ça marche. On passe à votre coup de cœur, un livre.
Oui, très, très joliment fait d'Elisabeth Dumont et chez Ulmer, encre de plante. Bien, comment faire soi-même? Eh bien, ces encres, pour l'écriture, le dessin ou le tissu, c'est très joliment écrit, c'est très joliment illustré, c'est très joliment expliqué. Voilà une belle occasion en été pour les passionnés de travaux manuels, un terme qu'on n'emploie plus beaucoup. Eh bien, vous allez dans la nature et grâce à cet ouvrage, vous serez capable de faire des colorants jaunes, rouges ou bleus. C'est merveilleusement fait.
C'est génial.
Oui, très bien
fait. Se servir de la nature pour faire de l'art.
Eh oui, tout à fait.
Un peu comme nous. Merci beaucoup, Alain Baraton.
À samedi prochain.
À la semaine prochaine.